Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Les faits de brousse sont très fréquents pendant la période des saisons sèches, d'après les agronomes. La plupart des maraîchers recourent aux faits de brousse après la récolte. Une façon de permettre à la terre de se reposer et après quelques mois, ils cultivent à nouveau sur le même sol. Pour les experts en environnement, cette façon de procéder a aussi des implications négatives l'environnement. Les faits de brousse détruisent l'habitat de plusieurs espèces animales. Et on a suivi dernièrement dans la province de l'Équateur où il y a eu des faits de brousse qui ont fait pas mal de dégâts. Jean-Robert Boingoy, vous êtes environnementaliste et ingénieur géospatial. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, quand on parle des faits de brousse, de quoi s'agit-il?
Bon, il faudra qu'on puisse distinguer les feux de brousse et les feux de forêt. Les feux de forêt, c'est ce qui prend sur la forêt. Et les feux de brousse, c'est dans des zones normalement de broussailles, des zones non boisées.
Et pourquoi bon nombre d'agriculteurs recourent au feu de brousse?
Bon, au niveau de nous pratiquons ici une agriculture itinérante sur brûlis. C'est une façon de remettre les éléments minéraux dans le sol, puisque généralement nos sols sont très pauvres, à l'exception des sols de l'ouest du Bas-Congo et du Kivu. Donc, ces sols-là ne contiennent pas d'éléments nutritifs suffisants en eux-mêmes, mais plutôt la fertilité est contenue dans la biomasse aérienne, c'est-à-dire dans les arbres. Donc, on coupe les arbres, on brûle pour que la fertilité puisse revenir au sol avant de planter. Donc, voilà, ça c'est pour ça qu'on fait, on recourt à cette pratique. Mais il faut dire que en République démocratique du Congo, ça brûle de Mwanda jusqu'à Lubumbashi. De Mwanda jusqu'à Kasumbalesa, je peux le dire. Mm. En saison sèche, ça brûle de Mwanda jusqu'à Kasumbalesa.
Donc pour tous les agriculteurs, les paysans, pour eux, la meilleure façon d'enrichir les sols, c'est de recourir au feu de brousse.
Disons que c'est pour remettre les éléments minéraux contenus dans la biomasse aérienne au sol. Donc, c'est une méthode de, si je peux dire, de fertilisation. Mm. Maintenant, les feux que nous avons au Congo, ici, je peux nous caractériser nous-mêmes comme étant des pyromanes. Lorsqu'on brûle au Bas-Congo, dans le Bandundu, c'est peut-être juste pour aller chercher des rats, vous voyez.
Ah, certains mettent le feu pour attraper les rats.
C'est une méthode de chasse. Donc, c'est une méthode de chasse. Mmh. Donc, à l'époque, on mettait des larges feux pour attraper de gibier,
pour
piéger les gibiers.
Les gibiers.
Bon, mais aujourd'hui, il y en a presque plus. Si vous allez par exemple dans le Bandundu, dans le sud Bandundu, c'est-à-dire au Kwilu Kwango, vous allez voir des superficies absolument immenses qui brûlent pendant la saison sèche, comme vous ne pouvez pas imaginer. Vous imaginez devant un lac de feu.
C'est très dangereux.
Extrêmement dangereux. C'est pas bon pour l'environnement parce que le feu peut
déborder si on ne prend pas les dispositions.
Le feu déborde toujours, surtout pour ceux qui ont des plantations, donc ils en perdent énormément. Et surtout lorsque nous nous trouvons en année sèche comme on en avait ici en 2010, ce feu là mis dans la savane traverse la forêt, ne brûle pas nécessairement toute la forêt parce que nous n'avons pas des résineuses qui prennent vraiment le feu, mais ils vont brûler les racines des arbres et on en a perdu beaucoup. de grandes superficies, hein, particulièrement dans le mine dump.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette pratique, vous avez dit que c'est une méthode de fertilisation du sol, quelles sont alors les conséquences que cela a sur l'environnement?
Oui, d'abord, les feux brûlent des quantités énormes de biomasse, donc ils remettent le CO2 dans l'atmosphère, ce qui va amener, ce qui va contribuer à, disons, au déséquilibre climatique. Il y a aussi le fait que, comme je viens de le dire, ce feu-là peut aller détruire complètement la forêt. Nous avons ici au Congo deux types de forêts. Ce feu-là ne détruit pas la muhulu ou la forêt dense sèche, puisque il brûle seulement l'herbe qui est en bas, et ces arbres-là sont habitués à des feux, hein, récurrents annuels. Mm. Tandis que lorsque vous allez par exemple dans la forêt de la cuvette, si ce feu-là prenne en année, je dis bien, je répète que l'année doit être suffisamment sèche pour permettre la propagation de ce feu-là. Comme en 2010, alors en ce moment-là, ce sont les racines et les racines fines qui vont être brûlées, et les arbres vont, il y aura un die-back des arbres, donc les arbres vont mourir après et tomber. Plus tard, bien après que les feux soient passés. Alors, il y a, sur le plan, disons au niveau des savanes, on peut dire qu'il y a un certain équilibre entre la quantité, les quantités de CO2 qui vont être émises dans l'atmosphère durant un épisode donné, et la fixation au courant de la saison de pluie suivante. Donc il y a ça, il y a un certain équilibre, mais il faut dire que le potentiel de végétation de notre pays, c'est une forêt, et que donc on a connu une évolution régressive de la forêt. Par exemple, il y a pas longtemps ici à Kasangulu, il y avait encore des belles jachères à première venue, deuxième venue, mais aujourd'hui il n'y a plus que de l'herbe. Donc on a connu une évolution régressive de la forêt suite à ce phénomène-là.
Bien, nous avons un premier auditeur en ligne, Jean-Claude depuis Kindu. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Feu de brousse, quels sont les dangers et comment lutter contre ce phénomène? Jean-Claude, vous êtes à Kindu, bonjour.
Oui, bonjour Jody, et bonjour aussi à l'invité, au professeur Bongo, et à tous vos auditeurs.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, ma question est, Jody, ma question est, c'est d'entrée de jeu, je voudrais d'abord demander la différence entre les feux de forêt et les feux de brousse. Parce que ici chez nous, nous sommes dans une zone où parfois il y a les gens allument la forêt et aussi allument la brousse, quoi. On ne sent pas, parce que ça doit être, on pourra faire une campagne de sensibilisation, parce que les gens brûlent les feux de brousse, vaille que vaille, et on ne tient pas compte des cycles saisonniers. Alors je voudrais demander à l'invité s'il pourra nous nuancer, quand est-ce qu'il faut faire les feux de brousse là, et quand est-ce qu'il faut faire aussi, et il ne faut pas le faire. Merci Jody.
Bien, merci. Jean-Robert Bongoy.
Oui, merci pour la question.
Différence entre feux de forêt.
D'abord, lorsque ça brûle dans la forêt, nous avons des feux de forêt. Mmh. Et tandis que lorsque nous avons un feu qui prend dans la savane, ce sont des feux de brousse. Donc ça brûle, ou ça brûle dans la forêt, ou ça brûle dans une brousse. Mmh. Alors au niveau de Kindu, effectivement, nous sommes à la rencontre entre les deux écosystèmes, c'est-à-dire nous sommes vraiment à la lisière de la forêt de la cuvette centrale. Et au début des zones savanicoles. En ce moment-là, lorsqu'on brûle normalement lorsque l'herbe est sec. Donc, lorsque l'herbe est sèche, c'est en ce moment-là qu'on va brûler. Et c'est normalement pendant la saison sèche. Mais il faut, donc, le problème n'est pas au niveau du timing, On sait que les feux ne prennent pas vraiment pendant la saison de pluie. Soit vous essayez de brûler, vous allez vous rendre compte que le feu ne va pas, la propagation ne se fera pas aisément à cause de l'humidité. Hein, et il va y avoir peut-être aussi une pluie qui va éteindre le feu. C'est au niveau de la distribution spatiale. Lorsqu'on veut garder le pâturage, donc c'est une méthode de renouvelage du pâturage. Lorsqu'on veut garder le pâturage, on peut brûler pour renouveler le pâturage pour l'année prochaine. Donc, je viens de dire qu'il y a un certain équilibre entre la quantité de CO2 qui va être fixée l'année suivante et celle qui va être émise dans l'atmosphère cette année. Donc, au niveau des savanes, là où il n'y a pas d'arbres, ça ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes, mais les feux, dans tous les cas, doivent être contrôlés. Donc, il faut... éviter que ce feu-là puisse se propager dans la forêt.
Mais est-ce que c'est vraiment important de recourir au feu de brousse pour fertiliser le sol?
Pour la fertilisation, non. C'est pour ça que nous avons dit, nous recommandons toujours des méthodes d'intensification agricole. Donc, on peut enfouir la biomasse, les feuilles, et on va avoir le même effet, on va avoir un résultat meilleur que lorsqu'on brûle.
Qu'est-ce que cela veut dire, enfouir la biomasse, c'est quoi?
On peut prendre les feuilles des arbres et on va les, comme ici, les mamans Angie Brasserie, c'est ce qu'ils font.
C'est ce qu'elles font. Hein.
Voilà. Et elles prennent
les feuilles mortes.
Elles vont les enfouir au sol et ça va fertiliser. Ça va fertiliser, elles n'ont pas besoin de brûler. Tandis que, au village, puisque, bon, on est habitué à une agriculture extensive et surbrûlée, donc, on le fait. Il y a un élément qui, comme je dis en termes techniques, qui monte toujours dans l'exilème, ne descend jamais dans le phloème. C'est-à-dire, le potassium, c'est un élément qui est toujours contenu dans le bois. Et c'est cet élément-là, souvent, lorsque on met des cultures qui demandent un excès de potassium, ce sont ces cultures-là pour lesquelles on essaye de brûler le bois pour essayer de remettre le potassium en circulation. Ou on fait aujourd'hui la fertilisation avec ce qu'on appelle le biochar, c'est-à-dire avec la braise. On peut remettre ces éléments en circulation.
La braise peut fertiliser les sols.
Puisqu'elle contient de quantités importantes de potassium, donc on peut remettre le potassium en circulation en brûlant le bois, puisque cet élément-là...
Alors la terre a besoin de... Quels sont les éléments dont la terre a besoin? L'azote?
Oui, normalement c'est l'azote, le phosphore, le potassium, et il y a des proportions. Généralement,
Le feu de brousse apporte tous ces éléments à la fois?
Avec le feu, on a plus ou moins l'assurance que le potassium va être remis en circulation, parce que on va brûler le bois, donc on va être certain que le potassium va être remis en circulation. Mais il faut savoir que ce ne sont pas toutes les cultures qui demandent un excès de potassium. Donc vous avez des cultures, notamment des bulbes, comme l'oignon. Et d'autres qui demandent un peu de potassium. Mais ce n'est pas vraiment une raison pour que l'on puisse brûler, qu'on continue avec une agriculture extensive. Il y a des méthodes, il y a aussi d'autres méthodes qui nous permettent de remettre le potassium en circulation dans le sol.
Clément Daye nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité du jour.
Bonjour.
Je voudrais juste demander à l'invité du jour, au point de vue agricole, est-ce normalement le feu de brousse est favorable? Il y a deux fois, les éléments du sol sont normalement détruits par le feu de brousse. Et dans un autre sens, malgré que le feu de brousse fait normalement chasser les prédateurs, que ce soit des animaux, soit des poules, quoi que ce soit, c'est normalement que du point de vue agricole, le feu de brousse est favorable ou bien défavorable, qu'il me précise. Et qu'il me donne certains éléments que nous pouvons normalement mettre en pratique si normalement le feu de brousse est accepté. Quels sont certains éléments que nous devons mettre en pratique si si le feu de brousse est accepté. Alors la deuxième question, j'espère qu'il y a deux fois au village. Auparavant, quand je suis encore jeune, puisque je totalise presque quelque chose de 28 ans bien sûr. Quand j'étais encore jeune et quand je suis à l'humanité, il y avait deux fois qu'un monsieur a mis le feu de brousse et ils ne sont pas même allés brûler les maisons, mais les chefs les condamnent, soit disant tu as brûlé les herbes, voilà tout ce que tu dois donner. Normalement, on les condamne. Et cela, si, normalement, c'est bon. Pourquoi ils pouvaient être condamnés? Car ça pouvait chasser les serpents, ça pouvait chasser certains animaux qui sont en face vis-à-vis des poules, mais on les condamne totalement. Il paye certaines amendes. Pourquoi cela a été normalement condamné? Alors, la troisième des questions. C'est vrai que le feu de brousse peut normalement aider. Mais si le feu de brousse aide, pourquoi dans d'autres pays, soit dans d'autres coins, on n'arrive pas à accepter le feu de brousse, mais il y a certaines méthodes qu'on utilise juste pour épargner, que ce soit les animaux, que ce soit les habitations, soit que ce soit normalement protéger certaines routes, ainsi de suite. Merci. Et je voudrais juste vous faire une reconnaissance sur ce que je vous avais envoyé comme message pour que nous puissions que ce puisse aussi passer. Merci.
Bien, Jean-Robert Bongoy, vous avez la parole.
Oui, disons, la question est importante. Est-ce que les feux de brousse sont favorables pour l'agriculture? Bon, cela dépend des endroits où on se trouve. Je viens de dire que lorsqu'on se trouve sur des sols qui sont généralement riches, on se trouve par exemple à Lukala ou à Mbanzangungu, Kimpese,
le sol est riche,
hein. À Songololo, on n'a pas besoin de feu pour remettre les éléments minéraux en circulation. Ce sont des sols qui résultent de la décomposition d'une roche basique. Donc, ce sont des sols qui sont très appropriés pour l'agriculture.
Mais le fait de laisser la terre en jachère, est-ce que ces éléments ne vont pas, il n'y aura pas régénérescence?
Non, d'une manière générale, là, on se trouve aussi en zone de prairie, je peux dire. Donc, en ce moment-là, ce n'est pas l'herbe qui va vraiment emmagasiner les éléments minéraux qu'on va essayer de remettre en circulation. Mais dans les sols pauvres, comme dans toute la cuvette centrale, on recourt à cette méthode-là pour remettre les éléments minéraux en circulation. Est-ce que cette méthode est absolument nécessaire? J'ai dit non, parce que on peut faire la même chose que les mamans font en Djilibrasserie. Donc on peut prendre les feuilles et les enfouir. Pour remettre les éléments minéraux.
Vous avez dit qu'on peut aussi utiliser les braises, la braise.
Bien sûr. Donc on peut utiliser. Aujourd'hui, les biochars, c'est une méthode largement reconnue de fertilisation puisqu'elle remet au même temps au sol des grandes quantités de potassium.
Et comment on le fait? Comment on procède?
Donc on fait une carbonisation incomplète du bois. Et on récupère les charbons qu'on utilise
qu'on va broyer.
Oui, on va broyer et oui. Remettre utiliser dans la fertilisation. Donc ça c'est on n'a pas besoin de brûler des grands étendues. Le problème c'est que lorsqu'on fait l'agriculture itinérante sur brûlis, on met le feu dans chaque petit espace du déboisé. Et on n'a pas nécessaire de le faire. Ce n'est pas nécessaire de le faire. On devrait normalement simplement prendre quelques bois, préparer des biochars qu'on peut utiliser par épandage dans sur tous les terrains. Donc, c'est pas vraiment nécessaire de recourir absolument au feu de brousse. Mmh. Dans des zones comme par exemple en Mbujimayi où il se trouve, ce sont des sols basiques aussi, donc ce sont des sols qui sont propices à l'agriculture. Ce sont pas des sols aussi pauvres que ceux de la cuvette centrale. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire de recourir au feu de brousse comme méthode de fertilisation.
Voilà, il nous dit il y a une personne qui avait mis le feu de brousse et la personne a été arrêtée par les autorités. Il se demande est-ce qu'il y a vraiment une vraie raison de l'arrêter?
Bon, d'une manière générale, les autorités coutumières travaillent avec une expérience millénaire. Donc, ils savent que les feux de brousse sont néfastes pour l'environnement, pour la biodiversité et pour la population d'une manière générale. Mmh. Donc, lorsqu'on met le feu, on éloigne les animaux. Et vous savez qu'à l'époque,
il a dit que ça permet de chasser les serpents.
Bon, pendant qu'on chasse les serpents, on chasse aussi l'antilope. Donc, ça permet d'éloigner et le serpent
et l'antilope.
Ben voilà. Donc, nous sommes dans un environnement où nous devons tous coexister, y compris avec les serpents. Hein, on ne peut pas dire que voilà, pour éloigner absolument les serpents, il faut absolument mettre le feu. Non, ça c'est extrême. C'est un peu comme on disait que bon, comme on dirait que oui, pour tuer une hirondelle, il faut utiliser un fusil. Ben lorsqu'il y en a 150 hirondelles, on va peut-être tuer 150 pour rien. Vous voyez, donc c'est extrême comme méthode d'éloignement du serpent. On peut trouver d'autres méthodes pour lesquelles on peut essayer d'éloigner le serpent. Donc lorsque dans la coutume on condamne ces personnes-là, c'est sur base de l'expérience que les bénéfices de cette activité-là sont moindres comparés aux effets néfastes.
Aux dégâts que cela
cause. Voilà, les dégâts qui sont causés sont beaucoup plus importants.
Augustin nous appelle de Mbandaka. Augustin, bonjour. Et quelle est votre question?
Oui, bonjour. Je salue le prof Bwangoy qui est dans l'antenne.
Oui, bonjour.
Professeur, nous savons que les activités anthropiques contribuent beaucoup à l'augmentation de l'effet de serre. J'aimerais savoir à quelle proportion les feux de brousse peuvent-ils contribuer à cette augmentation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous savons que les feux de brousse ont aussi un effet très, très néfaste sur la microfaune tellurique du sol. Est-ce que le professeur peut-il avoir une idée sur la durée de régénération de cette microfaune tellurique du sol une fois qu'elle est détruite? Merci beaucoup.
Jean-Robert Bongoy.
Oui, merci pour la question. Bon, je vais tout de suite dire que à la première question se rapporte vraiment à mon expertise. Pour la deuxième question, je vais tenter de répondre à la question. Sinon, nous pouvons nous référer à certains collègues qui sont vraiment spécialistes dans cette matière. Alors, il faut dire que jusque là, on estime à 20% plus ou moins, et les mesures ne sont pas précises. Faut le dire aujourd'hui. On estime à 20% la contribution de la déforestation des forêts tropicales dans l'augmentation des gaz à effet de serre d'une manière globale. Alors, nous sommes quand même un pays à faible déforestation, avec des grandes quantités de forêts, mais c'est en termes relatifs, donc en termes de pourcentage. Mais en termes absolus, nous perdons en RDC l'équivalent de la superficie du Danemark chaque année. Donc, ce qui est vraiment important. Donc, on contribue quand même, pas de la même manière que la Chine, l'Inde ou les États-Unis, mais il y a quand même une certaine contribution, mais surtout, il y a des pertes considérables. Et ces pertes-là sont essentiellement dues à l'agriculture itinérante surbrûlée. Donc, quelque part, toutes ces pertes-là se rapportent au feu de brousse. En ce qui concerne la microfaune, je crois qu'elle se reconstitue assez facilement. Donc, après le feu... je crois que juste après la mise en culture, on va voir l'activité de la microfaune qui va encore reprendre malgré le passage du feu. Et il faut savoir que le feu ne brûle que les quelques premiers centimètres du sol. Donc ces feux-là ne vont pas vraiment en profondeur d'une manière générale.
Mmh. Bien, Jean-Robert, vous dites que c'est pas, il n'est pas vraiment nécessaire de recourir au feu de brousse parce que ça cause beaucoup plus de dégâts que des avantages. À la place, vous proposez d'enfouir la biomasse, donc les feuilles mortes, on peut les récupérer. Mais s'il s'agit d'une grande étendue du sol, est-ce qu'on aura assez de force et des moyens pour recourir à cette méthode?
Bien sûr, lorsqu'on veut aller sur de grandes étendues, on est obligé aussi de penser à une certaine mécanisation. Et lorsqu'on a une certaine mécanisation, donc on a la capacité de pouvoir enfouir de grandes quantités de biomasse aussi dans le sol. Donc, ce qu'on veut, c'est l'intensification. Ben voilà, il faut recourir à ça. Donc, une mécanisation agricole, une intensification agricole, c'est ce qu'il nous faut.
On doit abandonner cette méthode.
On n'a pas besoin de déboiser des grandes superficies et de mettre le feu pour produire. On peut produire la même quantité dans des superficies assez réduites et en utilisant donc des méthodes d'intensification agricole, des méthodes de fertilisation, on peut recourir surtout à l'agroforesterie, donc où on plante les arbres, ces arbres-là vont fixer l'azote du sol et ramener la fertilité.
Voilà, et ramener la fertilité. Alors à part la méthode d'enfouissement et l'utilisation des braises, y a-t-il d'autres méthodes auxquelles on peut recourir à la place des feux de brousse?
Oui, ben c'est comme je viens de dire ici, on peut faire l'intensification agricole. Bon, on peut utiliser évidemment on peut recourir aux engrais chimiques, hein, comme vous le savez. Bon, moi, je suis pas vraiment.
Vous n'encouragez pas tellement les engrais, hein.
Non, je suis pas vraiment un friand des engrais chimiques. Mais on peut utiliser surtout essentiellement l'agroforesterie, c'est-à-dire on utilise des arbres qui prennent l'azote de l'atmosphère, la fixent hein, à l'aide de nodulation et puis fertilisent le sol.
Bien.
On a déjà fait, ça s'est fait ici avec beaucoup de succès.
Où ça, où, par exemple?
À Mampou, ici, à quelques kilomètres de Kinshasa. Bon, lorsque j'ai commencé à travailler au ministère de l'Environnement, c'est à ce moment-là qu'on mettait en place ces plantations. Donc, c'était comme, un peu de la blague, mais aujourd'hui, on voit les 8000 hectares.
On a planté les acacias.
On les voit sur l'image satellite.
Oui, les acacias. Et sous ces acacias, on pratique l'agriculture.
Exactement. Donc, ils ont pris des zones où, voilà, on peut couper, hein, déboiser un peu, planter le manioc. On a des rendements,
extraordinaires.
Oui, des rendements nettement meilleurs que les rendements qu'on a eus. Et aujourd'hui, mon collègue Olivier Mouchette est en train de le faire à Ibi Bateke et maintenant aussi il est en train de faire une extension au sud Kwamout. Donc ce sont des expériences très très réussies.
On va terminer avec la question de Odin et Congo d'Mbandaka. Bonjour.
Ah bonjour, je dis Daniel Kachima. Bonjour. Quelle est
votre question, Odin?
Ouais, je voulais juste essayer de faire un petit commentaire et puis poser la question à notre
rapidement.
Tout en disant que non, ici, ici dans la ville de Mbandaka, vraiment, j'espère que non, tout le monde avait bien suivi depuis le lundi comment les gens se plaignent pour la saison sèche. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas vraiment de. Bref, il y a la rareté d'eau pour que la population consomme. Ça, je vais dire, non, c'est l'une des causes qui fait en sorte que c'est ici dans la forêt, on va avoir une grande étendue de la forêt, mais avec les champs donc coupés et la production survenue des forêts, c'est ce qui provoque peut-être, je peux dire, c'est l'une des causes qui provoque aussi les gaz de fer et tout ça comme
alors, quelle est la question? Rapidement, quelle est la question? La question?
Bon, la question, c'est de savoir. La RDC qui était mieux placée parmi les pays favoris dans le top 23 en France la saison dernière. Qu'est-ce qu'ils ont préparé pour que la population ait un peu la, la conscience pour ne pas faire des champs avec des systèmes de surveillance. C'est ça, au moins, ma question.
Voilà. Est-ce qu'à la COP21, on avait parlé de l'agriculture itinérante sur Brûlis?
Bon, oui, d'une manière générale, on a parlé de, on a parlé de l'augmentation de gaz, de la concentration de gaz à effet de serre due à la déforestation et au brûlage de la forêt. Donc, on avait parlé de ça. Bon, pour le moment, il y a beaucoup de choses qui sont en train en préparation. Je ne veux pas anticiper, notamment au cabinet du Premier ministre.
Il dit qu'il faut sensibiliser la population.
Il faut qu'on arrive d'abord à un zonage du territoire national. Il faut qu'on arrive à déterminer l'espace qui est consacré à l'agriculture, l'espace qui est consacré à la forêt, l'espace qui est mis en conservation, l'espace qui est consacré aux mines et tout ça. Donc, il faut qu'on arrive à ce zonage-là. De cette manière-là, on saura quelle forêt on ne peut pas détruire parce qu'on ne peut pas empêcher non plus que l'on puisse faire l'agriculture. Donc, nous sommes un pays qui exporte beaucoup de nourriture. On exporte presque pour 2 milliards de dollars chaque année. Donc, ce sont des pertes énormes en devise. Alors, il faut que nous puissions produire localement quand même. Et pour ça, il faut vraiment qu'il y ait un zonage où on détermine à quels endroits on a réservé à quel type d'activité. Mais je crois que les autorités vont s'y atteler très rapidement. Alors, pour ce qui concerne la situation qu'il décrit dans la ville de Mbandaka, bon, ça, ce n'est pas dû nécessairement à l'effet des changements climatiques. Nous en avons parlé largement des effets de ce phénomène qui se passe aujourd'hui, qui s'appelle El Niño. Et c'est un phénomène, bon, c'est à cause de ça qu'ils ont vu l'inondation, les inondations dans la ville de Mbandaka. Donc, les eaux étaient presque aux portes du gouverneur, hein, de la résidence du gouverneur. Ils se sont retirés un peu, mais il n'y aura pas de saison sèche. Il n'y aura pas la petite saison sèche. D'une manière générale, on en est El Niño. On va avoir bientôt des canicules, notamment en Mbandaka, à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Donc ça, c'est lié au phénomène El Niño, mais ce n'est pas vraiment lié à un changement climatique qui est en fait un peu un phénomène permanent.
Bien, Jean-Robert Bongoy, environnementaliste et ingénieur géospatial. Merci et bonne journée.
Merci.